Deutsche Welle, Info, Matin.
Vous écoutez le programme en français de la radio Deutsche Welle, la radio internationale d'Allemagne. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'Info Matin. Il est 7h en temps universel. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au micro, Fréjus Quenom et Carole Assignon, bonjour.
Bonjour Fréjus, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le projet d'un mémorial pour Thomas Sankara, une levée de fonds sera lancée dès aujourd'hui dans la capitale burkinabé, mais le lieu où ce monument sera installé fait polémique.
Au moins 7 morts hier au Cameroun en marge de la commémoration de la fête de l'unité nationale. Les séparatistes anglophones ont tenté de braver les forces de l'ordre et proclamer l'indépendance de leur région.
L'insécurité en Côte d'Ivoire, une préoccupation pour les Ivoiriens menacés par les microbes, des jeunes enfants gagnés par le banditisme.
Aujourd'hui, c'est lundi, notre rubrique du jour est consacrée à l'actualité sportive et ce matin, nous sommes avec Ali Farhat. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Le Borussia Dortmund est toujours en tête de la Bundesliga suite à sa difficile victoire face à Augsbourg. Le Borussia qui compte 5 points d'avance sur le Bayern Munich, tenu en échec à Berlin par le Hertha. Et puis sinon, sur le continent africain, le tout-puissant Mazembe a pris une option en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération en battant le FES Rabat 1-0.
Ali Farhat, merci beaucoup pour le sommet. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec vous. Mais chers auditeurs, ne ratez pas la chronique. À vous la parole. Nous entendrons vos commentaires sur la baisse du niveau de l'éducation en Afrique. Même pour tout commencer, le bulletin d'information avec vous, Carole Assillon. L'enquête se poursuit en France après l'attaque au couteau sur le parvis de la principale gare de Marseille.
Oui, l'assaillant qui a été abattu par des militaires de l'opération Sentinelle était âgé d'une trentaine d'années et était connu pour des faits de droit commun sous plusieurs identités selon des sources proches de l'enquête. Une enquête ouverte notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'attaque, rappelons-le, a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Elle a coûté la vie à 2 jeunes femmes.
En Catalogne maintenant, la victoire du oui dans un référendum contesté par le pouvoir central à Madrid.
Selon le gouvernement séparatiste de Catalogne, le oui l'a en effet emporté avec 90% des voix et un taux de participation de 42,3%. La journée d'hier a été marquée par des perquisitions de la police, des saisies de bulletins de vote, la fermeture de sites internet. Au moins 92 personnes ont par ailleurs été blessées. En théorie, en vertu de la loi votée le 6 septembre par la majorité séparatiste au Parlement catalan, l'indépendance doit être proclamée dans les 48 heures suivant une victoire du oui. Mais pour le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Selon lui, l'état de droit reste en vigueur. L'indonésienne Siti Aisha et la vietnamienne Thi Huong plaident non coupables et sont accusées d'avoir assassiné en Malaisie le demi-frère en disgrâce du dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-nam avait été agressé le 13 février au VX, un agent neurotoxique, avant de décéder au bout d'une vingtaine de minutes d'agonie. Peu après son assassinat, les deux femmes avaient été interpellées et risquent la peine de mort.
Theresa May tente de reprendre la main après l'échec de son parti à constituer une majorité au Parlement à l'issue des dernières élections législatives.
À l'ouverture du Congrès des conservateurs à Manchester, la première ministre britannique a tenté de minimiser les divisions sur le Brexit et reconquérir les jeunes. Sur le Brexit, justement, Theresa May a assuré que son gouvernement était uni derrière elle. Elle a également promis d'incarner le conservatisme social qu'elle avait vanté en prenant ses fonctions en juillet 2016. En Syrie, septembre a été le mois le plus meurtrier en 2017 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'organisation estime qu'au moins 3000 personnes, dont près d'un tiers de civils, ont été tuées durant ce mois en raison notamment des offensives contre le groupe État islamique. En mai, pourtant, 4 zones de désescalade avaient été annoncées par les alliés internationaux du régime et des rebelles afin d'instaurer des trêves dans plusieurs régions. Mais ces dernières semaines, des violences ont éclaté dans certains de ces secteurs.
Et puis Carole, c'est à partir d'aujourd'hui que démarre la saison 2017 des Nobel.
Effectivement, avec l'annonce du prix Nobel de médecine, ce sera dans la matinée. Ensuite, on connaîtra les heureux gagnants de deux autres prix sujets scientifiques. Il s'agit de la physique et de la chimie, mais celui de la paix, de l'économie et de la littérature. Et pour l'instant, l'Académie suédoise qui le décerne n'a pas encore dévoilé la date de l'annonce. Mais comme chaque année, les spéculations vont déjà bon train.
Le train Infomatin est en marche depuis maintenant 5 minutes, 7h05 en temps universel. Merci beaucoup Carole pour le bulletin d'information. Au Burkina Faso, les citoyens sont appelés dès ce lundi à faire une souscription volontaire de 100 francs CFA, soit 15 centimes d'euros, pour contribuer à la construction d'un mémorial en mémoire de Thomas Sankara. Une cérémonie officielle est prévue dans la journée.
Le Comité international du mémorial Thomas Sankara veut par ce moyen préserver et sauvegarder l'héritage et les idées révolutionnaires du leader de la révolution burkinabé. Richard Tiné, notre correspondant à Ouagadougou, pour les détails.
C'est un mémorial qui sera le repère physique et visible de l'œuvre de Thomas Sankara, selon l'activiste Smokey, membre du comité international du mémorial.
Thomas Sankara était aussi au rang de héros national. Il est donc normal qu'on lui laisse quelque chose de vrai, un espace où cette jeunesse burkinabé là pourra se rencontrer, cette jeunesse africaine, parler de panafricanisme, parler des idées de Thomas, parler de la possibilité de changer les choses par un rafraîchissement de l'offre politique, en tout cas faire en sorte en tout cas, que les idées de Thomas puissent revivre et faire décoller nos États.
Pour parvenir à la construction de ce mémorial qui se profile comme un vaste complexe socio-éducatif, le comité a recours à une pratique populaire sous la Révolution. Il s'agit de l'effort populaire d'investissement. Il est demandé à chaque Burkinabé et toute personne qui épouse les idées de Thomas Sankara une contribution volontaire pour l'érection de l'édifice. Le secrétaire permanent du comité international, Serge Bayala.
Nous pensons qu'un simple repérage qui est que chaque Burkinabé sacrifie 100 francs, si sur les 10 millions de Burkinabé actifs que nous avons, chacun donne 100 francs, on mobilise 1 milliard par jour. Il faut que nous ayons ces signaux-là pour nous donner tout le courage et pour nous donner tout l'espoir d'être capables de porter notre destin par nous-mêmes.
À l'image de Kwame Nkrumah, immortalisé au Ghana par un monument, des Burkinabés estiment aussi qu'il est temps de matérialiser la philosophie du père de la révolution. Noufou Zougmore, journaliste et analyste politique.
Vous voyez, au Ghana, il y a le monument de Kwame Nkrumah. Donc il y a lieu quand même de marquer quelque chose. C'est pour dire que finalement l'histoire a donné raison à Thomas Sankara.
La souscription volontaire est officiellement lancée ce lundi par une cérémonie à laquelle participent le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, et l'ancien président ghanéen, John Jerry Rawlings. Un concours architectural de l'édifice a été lancé. Richard Tiené à Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
Dans 2 semaines, cela fera 30 ans que Thomas Sankara a été assassiné. Passé l'étape de la collecte de fonds, il va rester à résoudre la question du lieu où le monument sera érigé. Car Mariam Sankara, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara, ne voudrait pas voir cette œuvre s'installer au Conseil de l'Entente, là où son mari a été assassiné. Nous écoutons un extrait des propos de Mariam Sankara, jointe par Lionel Bizogo.
Nous, en tant que famille, ça dit que tout ce qui se fait pour la mémoire de Thomas, bon, nous soutenons. Mais seulement, nous souhaitons que ce mémorial-là, s'il se fait, que ça ne soit pas fait au Conseil de l'Entente. Parce qu'ils veulent faire au Conseil de l'Entente là où le président a été assassiné. Et pour nous, la famille, c'est un endroit qui nous rappelle des douloureux souvenirs. Nous ne voulons pas cela.
Voilà, Mariam Sankara, la veuve de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, que vous pourrez entendre plus longtemps sur notre site internet dw.com/français.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Et juste à côté du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a annoncé hier le maintien à 700 francs CFA par kilo du prix d'achat du cacao pour la campagne 2017-2018. C'est un peu plus d'un euro. Voilà qui devrait redonner le sourire aux producteurs par 7 ans de crise et surtout d'insécurité, Carole.
Oui, l'insécurité justement, on en parle. Ils se font appeler microbes. Ce sont des jeunes adolescents délinquants qui sévissent dans plusieurs quartiers d'Abidjan comme à Bobo, à Djamé, à Tekoubé ou Yopougon, regroupés en gangs, ils agressent, attaquent des usagers de la route des cours communes, tuent à l'aide d'armes blanches et de gourdins. Des microbes qui sévissent au grand dam des populations. Julien Adey, notre correspondant à Abidjan, est allé à la rencontre de ces populations justement apeurées de Yopougon dans le nord de la ville. Son reportage.
Ici à Yopougon, on attrape à cause des microbes. On vit dans la terreur.
Il est à peine 18h et voilà Salomé Yao, vendeuse d'objets de piété, devant la cathédrale Saint-André de Yopougon qui plie bagages. Pourtant, ce quartier est considéré comme le temple de la joie où il fait bon vivre. Ici, les microbes sévissent sans pitié et de plusieurs manières. René Vaco, gardien de nuit devant une banque, voit régulièrement ce type d'agression. Il raconte.
Ceux qui vont travailler tout le matin, ils se font arracher les sacs à main, les portables. Les microbes sautent des couloirs et je viens surprendre les gens, les machettes avec des couteaux à la main.
La psychose a commencé à s'emparer de la population qui s'empresse de rentrer chez elle les soirs pour se mettre à l'abri. Cela a une conséquence sur les activités de la nuit. 22h, le maquis de Georgette Kelly est vide. Elle est obligée de fermer plus tôt que prévu pour un week-end.
Nous sommes en début de week-end comme ça, un vendredi. Les clients auparavant restent jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais maintenant, à partir de 22h, 23h, tout au plus, fini. Parce que pas en sécurité.
Ces microbes utilisent des armes blanches pour faire des traces qui restent à vie sur les corps des personnes qu'ils agressent. Simon Tao, 65 ans, est l'une de ces victimes.
Je partais à la maison vers les 5h30. Je vois des enfants, ils sont plus de 8. On m'a agressé, me poignardé, me chicoté.
Pour mieux comprendre cette forme de violence en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré le sociologue Rodrigue Koné qui pense que ce phénomène rend compte clairement d'un échec des politiques publiques qui sont de moins en moins sociales.
Ces acteurs mis à la marge développent des stratégies de réadaptation dans une société où ils veulent eux aussi construire un projet de vie où ils n'ont pas de ressources qu'il faut et la violence malheureusement devient souvent un recours à partir duquel ils essaient de se positionner dans le système social de se faire voir.
Aujourd'hui, arpenter les rues d'Abidjan représente un danger pour les populations. Le gouvernement peine toujours à trouver une solution efficiente pour lutter contre ce fléau. À part des milliers de policiers lâchés aux trousses de ces microbes, des policiers parfois sans armes qui ont vu un des leurs égorgé par des microbes ici même à Yopougon début septembre dernier. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Bref, à présent, l'église catholique malienne est inquiète. Il y a eu plusieurs attaques commises récemment contre des églises et des chapelles dans le centre du pays, à 90% musulmans, où les catholiques sont très minoritaires. Selon Edmond Dembélé, secrétaire de la conférence épiscopale du Mali, une attaque a ciblé il y a une semaine un édifice religieux à Dobara. C'est à 800 km de Bamako, tandis que d'autres attaques d'églises et de chapelles ont été enregistrées dans le centre du Mali.
Au Kenya, toujours en bref, c'est un jour à risque qui se lève. L'opposition a appelé ses partisans à manifester à Nairobi et dans d'autres villes du Kenya pour protester contre la modification de la loi électorale engagée par le parti au pouvoir en vue de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Une élection qui sera organisée après l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta face à son rival de l'opposition, Raila Odinga.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Infomatin, 7h13 en temps universel. Au moins 7 personnes ont perdu la vie dans les troubles qui ont marqué hier au Cameroun les célébrations de la fête de l'unité. Il faut dire que les séparatistes anglophones voulaient profiter de cette occasion pour proclamer l'indépendance de leur région.
Les appels à la retenue n'ont pas été entendus. Toutes les prières du dimanche ont été vaines. La journée d'hier, donc dimanche 1er octobre 2017, a été sanglante au Cameroun. Le bilan des échauffourées entre les manifestants anglophones et les soldats lourd. Et du côté francophone, certaines contre-manifestations, pourtant du parti au pouvoir, n'ont pas caressé le régime de Paul Biya dans le sens du poil. Le reportage de notre correspondant à Douala, Henri Fotso.
Ça va mal! Les Camerounais sont très pauvres! Si les enfants n'ont pas les écoles, si les enfants n'ont pas le travail, si les enfants ne peuvent pas se faire soigner, il y aura toujours les Bamenda et les Nord-Ouest et les Sud-Ouest et la protestation.
Ce cri de détresse n'est ni de l'opposition, ni d'un sécessionniste anglophone du Cameroun. C'est le cri du professeur Messanga Nyamdi du comité central du parti au pouvoir. En ce 1er octobre 2017, le parti du président Biya a alors organisé une manifestation dite de soutien aux institutions en réaction à l'appel à l'indépendance d'une partie du pays. Une manifestation dont le contenu témoigne plutôt de ce que le mal-être anglophone est un mal-être général au Cameroun. Malheureusement, les manifestations du côté anglophone ont tourné court, comme le confirme Moïse Dibango, secrétaire général d'Énergie citoyenne, organisation de défense des droits de l'homme.
La prison de Kumbu s'est brûlée, les détenus se sont retrouvés dehors. À Bouya, les militaires se sont interposés. À Bamenda, d'aucuns ont hissé le drapeau. Il y a eu des dégâts.
En attendant le bilan final de cette journée sanglante dans les deux régions anglophones, le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, assure que Yaoundé négocie et négociera tout sauf l'intégrité du territoire camerounais.
Le président de la République a rappelé à plusieurs occasions que la forme de l'État telle que prévue par la Constitution est non négociable. Ce rappel nous concerne tous, Camerounais et non Camerounais, vivant au Cameroun ou ailleurs dans le monde.
En somme, les manifestations ont eu lieu dans les 10 régions du Cameroun. Les manifestations des deux régions anglophones à l'appel des sécessionnistes et des contre-manifestations des régions francophones à l'appel du parti au pouvoir. Le 1er octobre reste ainsi gravé dans l'histoire du Cameroun comme date de l'unité et date de contestation de l'unité. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle.
Et j'ajoute que dans un message adressé aux Camerounais, le président Paul Biya a de nouveau lancé un appel au dialogue.
Le dialogue, c'est aussi ce que propose le numéro 1 du Nigeria, qui fait aussi face à des revendications séparatistes dans le sud-est. En effet, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra réclame la création d'une république indépendante à grande majorité Igbo. Hier, à l'occasion des commémorations de la fête nationale, le président Muhammadu Buhari a donc condamné les appels au démembrement du Nigeria et il a appelé à un dialogue rationnel. Mamadou Bouhari, qui s'est aussi rendu dimanche après-midi à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, pour rendre visite aux soldats déployés contre le groupe armé Boko Haram.
En RDC, à présent, plusieurs sources indiquent que les 16 militants pro-démocratie arrêtés samedi à Kisangani pour avoir réclamé la convocation de la présidentielle au plus tard le 31 décembre ont été relaxés après 12 heures de détention.
En revanche, 33 autres activistes pro-démocratie qui manifestaient le même samedi à Goma, dans le Nord Kivu, se trouvent toujours en détention. La commission électorale aurait dû convoquer par ailleurs le corps électoral au plus tard le 30 septembre si des élections devaient avoir lieu en fin d'année comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre.
Cette semaine dans Droits et Libertés, nous revenons sur un événement historique qui trouve ses racines il y a 70 ans, 1947. C'est le démantèlement de l'Empire des Indes britanniques. Émergent deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. Et nous revenons cette semaine sur ce processus douloureux de séparation. Et nous tentons de comprendre pourquoi ces deux pays sont encore aujourd'hui de grands rivaux.
Nous avons fourni tellement d'efforts, nous nous sommes tellement investis dans la résistance non violente. Tout ça pour tomber de Carib en Silla, ce n'est pas bon. Peu importe que nous croyons au même Dieu, nous sommes tous des frères et des frères doivent s'embrasser.
Nous reviendrons également sur le commerce florissant des passeurs en Libye.
Les passeurs kidnappent même des gens qui ne veulent pas aller en Europe. Ils font chanter leurs proches pour leur arracher une rançon et obligent ensuite leurs otages à partir en Italie par bateau.
Retrouvez le magazine Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
Voilà, vous l'aurez remarqué, c'était donc comme tous les lundis un avant-goût du magazine Droits et Libertés de Sandrine Blanchard. Et à 7h presque 20, temps universel, Ali Farad se prépare déjà pour la chronique sportive.
Deutsche Welle, le sport, Ali Farad.
Et plus qu'une chronique, c'est carrément une rubrique, Ali Farhat, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait.
Alors avec vous, on va faire un tour complet de l'actualité sportive de ce week-end. Et comme le veut la tradition, on commence avec le championnat allemand de football.
Oui, le Borussia Dortmund est toujours leader de Bundesliga suite à sa victoire 2-1 sur la pelouse du FC Augsbourg. Une rencontre que vous avez pu suivre sur les ondes de la Deutsche Welle. Mais que ce fut dur pour les hommes de Peter Bosz. André Yarmolenko a ouvert le score pour Dortmund. Augsbourg a égalisé par l'intermédiaire de Kayubi avant que Shinji Kagawa ne donne l'avantage au Borussia d'un superbe lob à l'entrée de la surface.
Dur en effet, cette rencontre a été particulièrement difficile pour Pierre-Emerick Aubameyang.
À l'image de son équipe, le Gabonais a eu beaucoup de difficultés. Il a notamment perdu un face-à-face en première mi-temps ainsi que raté un pénalty en seconde. Néanmoins, Pierre-Emerick Aubameyang et les siens se sont accrochés jusqu'au bout face à une équipe du FCA très courageuse et très volontaire et ils ont fini par s'imposer 2-1, donc pour la plus grande joie du gardien, Roman Bürki.
Je pense que les semaines avec des matchs tous les trois jours nous ont coûté beaucoup d'énergie, notamment celle avec les parties en Ligue des Champions. Cela s'est vu aujourd'hui, notamment lors de la seconde période. Nous avons eu des occasions, mais nous n'avons pas pu toutes les concrétiser. Néanmoins, nous sommes contents de repartir avec les trois points.
Et grâce à cette victoire, Ali, Dortmund trône confortablement maintenant en tête de la Bundesliga.
En effet, les hommes de Peter Bosz comptent actuellement 19 points après 7 journées, soit 5 longueurs d'avance sur le Bayern Munich. Le Bayern qui se déplaçait hier sur la pelouse du Hertha Berlin avec un nouvel entraîneur, Willy Sagnol, qui effectue l'intérim depuis le départ de Carlo Ancelotti jeudi dernier. Tout avait bien commencé pour les Bavarois avec un but de la tête de Mats Hummels à la 10e minute, puis un autre but de Robert Lewandowski cette fois-ci à la 49e. Seulement voilà, le Bayern s'est relâché et le Hertha en a profité. Andrei Duda a égalisé suite à un superbe travail de Genki Haraguchi avant que Salomon Kalou n'égalise à la 56e minute de jeu. Score final 2 buts partout, un résultat qui ne fait pas du tout plaisir à Thomas Müller.
Nous sommes tous très frustrés et très déçus. C'est la deuxième fois que nous ne gagnons pas alors que nous menons 2-0.
En effet, la semaine dernière, le Bayern Munich avait concédé le nul face à Wolfsburg alors qu'il menait 2-0 à la mi-temps. Le Bayern qui est donc à 5 points du Borussia aujourd'hui.
Oui, tout comme Hoffenheim qui a connu sa première défaite de la saison sur le terrain de Fribourg, 3-2. Suite à sa victoire 2-1 sur la pelouse de Cologne, Leipzig remonte à la 4e place, juste devant Hanovre qui s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Gladbach. Grâce à un but du franco-ivoirien Sébastien Haller dans les arrêts de jeu, Francfort bat Stuttgart 2-1, tandis que Wolfsburg a fait un partout contre Mayence, tout comme Schalke face à Leverkusen. Enfin, 0-0 dans le derby du Nord entre Hambourg et le Werder Bremen. 25 buts ont été inscrits au cours de cette 7e journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous dans 2 semaines avec notamment Bayern-Fribourg, Hertha Schalke 04 et Dortmund contre Leipzig.
Alors à Lyon, joue également en Afrique ce week-end.
Avec les demi-finales allées des compétitions continentales, en Ligue des Champions, tout reste à jouer entre l'USM Alger et le Wydad Casablanca qui se sont séparés sur le score de 0-0, tandis que l'Étoile du Sahel a battu El Ahly 2-1. En Coupe de la Confédération, cette fois, le tout-puissant Mazembe a battu le FES Rabat 1-0 grâce à un but signé Ben Malango, tandis que le club africain est allé chercher le nul en Afrique du Sud face au Supersport United. Score final 1-1. Les matchs retour auront lieu le week-end du 20 octobre prochain. Et puis, sinon, sachez qu'on connaît les affiches du second tour des qualifications à la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Le Burundi, qui compte pour l'instant la meilleure buteuse des éliminatoires en la personne de Falone Maimena, qui a déjà inscrit 4 buts, eh bien, le Burundi affrontera l'Afrique du Sud. Le Maroc, qui vient de sortir le Sénégal, aura fort à faire face au Nigeria. Le Ghana jouera le Kenya, tandis que le Cameroun sera opposé à la Sierra Leone. Les matchs aller auront lieu le week-end du 3 novembre. Les matchs retour le week-end du 17. Il restera ensuite un tour pour déterminer quelles seront les équipes qui se rendront donc à cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, dont la prochaine édition aura lieu du 5 au 24 août 2018 en France.
Merci beaucoup Ali Farhat pour la chronique sportive, pour la rubrique sport donc de ce lundi. Et pour les personnes qui ont raté cette rubrique, Ali Farhat, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce qu'ils pourront retrouver cette rubrique quelque part?
Oui, tout à fait, sur www.com/lesport.
Merci beaucoup Ali Farhat. 7h24 à l'écoute, en temps universel et à l'écoute d'Infomatin.
vous la parole.
Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, la rentrée scolaire a déjà eu lieu. Dans d'autres, on s'y prépare encore. Mais beaucoup déplorent la baisse du niveau de l'éducation. Mireille Drone a recueilli vos commentaires sur le sujet.
Dans mon pays, depuis plus de 20 ans déjà, le niveau scolaire a sérieusement baissé, regrette Caleb de Lomé. On a des jeunes sans motivation qui entrent dans l'enseignement pour fuir le chômage sans cesse croissant et des enseignants démotivés par le comportement des dirigeants qui rechignent à investir dans l'éducation. Le tout couronné par un programme d'ajustement du FMI qui a conduit au désengagement de l'État. Sur WhatsApp, Bensa du Togo également souligne que les élèves sont plus de 100 par classe et les maîtres fatigués. Et Herman du Cameroun critique, lui, la qualité des manuels scolaires.
Même dans les universités, on constate que les nouveaux étudiants qui arrivent avec leur bac n'ont pratiquement pas de niveau, n'arrivent pas à s'exprimer ou écrivent mal. Et cela ne se limite pas seulement aux nouveaux étudiants qui arrivent du lycée, mais aussi aux enseignants du lycée. Parce qu'on a comme impression que les livres que les gouvernements essaient de mettre à la disposition des élèves de nos jours ne permettent pas à ce que ces élèves puissent acquérir des connaissances qui puissent les permettre d'évoluer normalement. Au lieu de privilégier des livres qui sont intéressants, on préfère plutôt privilégier des livres plutôt peut-être de quelques particuliers qui ont essayé de griffonner quelque chose en se disant qu'on fait la propagande de nos livres locaux, mais au contraire, on abrutit plutôt nos enfants et nos jeunes.
Sur Facebook, Alain de Lubumbashi en RDC pense aussi qu'il faudrait fournir des ouvrages récents de qualité et en quantité suffisante pour actualiser davantage l'enseignement, mais aussi améliorer les conditions de vie des enseignants. D'ailleurs, souligne Eric de Béni, les enseignants menacent d'entrer en grève car le gouvernement n'a pas respecté sa promesse de réajuster le salaire du mois de septembre, écrit-il. Boubacar de Niamey au Niger regrette le niveau de scolarité déjà très bas dans son pays et avec les évaluations des enseignants, plus de 40% d'entre eux sont renvoyés sans remplaçant jusqu'à présent, alors que la rentrée scolaire a déjà débuté, écrit-il. Le constat est amer en Guinée, nous écrit Mamadou de Conakry, concernant le niveau des élèves et même des enseignants. À son avis, c'est dû à l'absence totale de l'État dans le primaire, où les enseignants n'ont, pour beaucoup, pas le BEPC et aucune maîtrise de la pédagogie. De plus, leur mauvaise rémunération, là aussi, constitue un facteur de découragement.
Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Voici l'actualité de ce lundi en quelques points avec vous, Carola Sion.
Oui, l'actualité, c'est ce projet d'un mémorial pour Thomas Sankara avec une levée de fonds qui sera lancée dès aujourd'hui dans la capitale burkinabé. Après cette étape, il faudra déterminer le lieu du mémorial. Au Cameroun, au moins 7 personnes sont mortes hier en marge de la commémoration de la fête de l'unité nationale. Les séparatistes anglophones ont bravé les forces de l'ordre et proclamé l'indépendance de leur région. L'insécurité en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens menacés par des microbes, des jeunes enfants gagnés par le banditisme. En Catalogne, il y a la victoire du oui lors du référendum contesté par le pouvoir central. Et puis, notez que c'est à partir d'aujourd'hui que démarre la saison 2017 des Nobel.
Merci beaucoup, Carole. On gardera un œil sur l'actualité au Kenya où l'opposition appelle à manifester contre les réformes électorales. Voilà, lorsque Salif Keita chante Africa le matin sur Radio Deutsche Welle, c'est qu'il va être 7h30 en temps universel et c'est toujours ainsi que s'achève Info Matin, l'émission d'information matinale du service francophone. C'était aujourd'hui Carole Assillon et Fréjus Quenhomme à la présentation. Retrouvez le programme francophone ce soir à partir de 17h en temps universel. Tchuss et à ce soir.